Aujourd'hui, il y a beaucoup de sondages. Voyez-vous, il y a trois sondages politiques par jour. Et comme les présidentielles sont dans 400 jours, ça veut dire qu'on va avoir 1200 sondages d'ici les présidentielles. Alors, c'est beaucoup quand même. Et moi, je dis fortement que ce qui compte dans la politique, c'est pas d'être là toujours esclave des sondages, en se demandant tous les matins comment je vais faire pour répondre à ce que l'opinion attend. Mais c'est aussi de savoir ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on propose. Mais les sondages existent. Il ne s'agit pas de les interdire. Ils existent, ça intéresse tout le monde. Simplement, nous avons fait avec Hugues Portelli une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat, qui propose qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Il y a une loi de 1977 sur les sondages qui est complètement dépassée. Donc nous voulons que l'on dise clairement, chaque fois qu'on publie un sondage, qui paye? Et ça m'intéresse de savoir si c'est l'Élysée qui paie le sondage ou le Figaro, par exemple. C'est quand même pas neutre. Alors, surtout si c'est de l'Élysée, parce qu'après tout, c'est de l'argent public. Deuxièmement, que l'on nous donne les marges d'erreur. Voyez-vous, en 2002, beaucoup de gens ont voté pour un candidat en se disant, ce n'est pas grave, puisqu'il y aura Jospin au deuxième tour. Donc au deuxième tour, je voterai Jospin. Mais ils n'ont pas imaginé que Le Pen pouvait se retrouver devant Jospin. Or, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne donne pas les marges d'erreur. Lorsque vous dites dans un sondage, voilà, tel candidat obtient 24, en fait, ce n'est pas 24. Ça veut dire que c'est entre 21 et 27. Donc, il y a une marge importante. Et si on disait la marge d'erreur est plus ou moins 3, sur les radios comme la vôtre, sur les télévisions, ce serait plus conforme à la réalité des choses. Deuxièmement, nous pensons, il faut dire, le financement. Il faut donner des marges d'erreur, il faut donner des questions et non seulement les réponses, parce que selon la manière dont on pose la question, on obtient ou on n'obtient pas une réponse. Troisièmement, il faut obtenir aussi les redressements. Parce que, comme l'a dit Jérôme Sainte-Marie, qui était avec moi dans ce débat, les chiffres sont redressés, c'est-à-dire qu'on obtient des chiffres bruts, mais les sondeurs ont l'habitude de les modifier. Alors, il les modifie de manière très, très logique, parce que si vous voulez, pour le Front National, par exemple, pour Jean-Marie Le Pen, il y avait, il y a 10 ans, environ une personne qui disait je vote Jean-Marie Le Pen, pour trois qui votaient Jean-Marie Le Pen. Parce que les gens n'osaient pas le dire. Comme il y a 30 ans, certains n'osaient pas dire qu'ils votaient pour le Parti communiste. Et il y a des votes qui sont surévalués. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui disent je vote écolo que de gens qui votent effectivement écolo. Donc l'idée, c'est de dire, eh bien, on prend le résultat des élections précédentes, on fait la comparaison entre ce que les gens disent qu'ils vont faire et ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont fait dans le passé. Et moi, je dis simplement, eh bien, très bien, vous faites cela, mais déclarez à la commission des sondages vos critères de redressement, vos chiffres bruts, vos méthodes de redressement et comment vous arrivez à ce chiffre. Et que cela soit accessible à tous, à vous, étudiants, journalistes, aux autres politiques, aux autres instituts de sondage, enfin à tout le monde. Pourquoi? Eh bien, parce que comme ça, on saurait la vérité sur les sondages et on saurait comment, selon quelles hypothèses, on arrive à tel chiffre. Et cela serait très bien pour le débat public. Voyez-vous, il y a eu un sondage qui a donné lieu à beaucoup de contestations à ce débat de ce matin, qui mettait à l'élection présidentielle Marine Le Pen devant tout le monde, au premier tour, devant Strauss-Kahn, devant Aubry, devant Hollande et devant Nicolas Sarkozy. Bon, on ne nous donne pas la marge d'erreur. Or, toutes les personnes sont dans un mouchoir, donc on ne peut rien dire finalement de l'ordre. Première remarque. Alors tout le monde dit Le Pen est devant les autres. On ne peut pas le dire. C'est une information fausse, mais elle est diffusée partout. Deuxièmement, l'Institut refuse de dire le chiffre brut. Donc on ne sait pas s'il y a 10%, 12%, 14% ou 18% de gens qui ont dit je vote Marine Le Pen. Et comme il n'existe pas de référence, parce que pour Jean-Marie Le Pen, on peut calculer ce que les gens disent dans le sondage et ce qu'a été le vote précédent aux élections présidentielles pour Jean-Marie Le Pen. Là, pour Marine Le Pen, on n'a aucune donnée. Donc certains disent, ah oui, mais les gens, ils disent plus facilement qu'ils votent pour Marine Le Pen parce que c'est une femme que pour Jean-Marie Le Pen. Mais c'est au doigt mouillé, on n'en sait rien. Donc, le problème, c'est que ce sondage, il prête beaucoup le flanc à la critique, de la manipulation. Et or, il joue un rôle dans le débat public, parce que tout le monde en parle, et parce que tous les éditorialistes font leur éditorial là-dessus. Donc c'est très important pour la démocratie. Donc moi je dis, nous sommes pour que les sondages existent, bien sûr, on est dans une société de liberté, mais il faut revoir la loi de manière à ce que l'on ait la transparence totale sur qui paie, quelle est la marge d'erreur, quelles sont les questions effectivement posées, quels sont les redressements effectués, selon quels critères. Et ainsi, le débat, il aura lieu sur des réalités. Tandis que là, tout le monde parle d'un sondage dont personne ne connaît rien.
Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus. N'avez-vous pas peur que les gens se perdent dans les chiffres et qu'en fait, ce n'est pas forcément un souci de transparence vis-à-vis des instituts de sondage, mais plus un traitement vis-à-vis des médias? Par exemple, Vincent Giray, qui animait ce débat, disait que Le Pen au second tour, c'était impensable en 2002. Pensez-vous pas que c'est plus une erreur des journalistes que des instituts de sondage qui, elles, font leur boulot comme depuis 60 ans?
C'est parce que on est intoxiqué par les chiffres absolus. C'est-à-dire qu'on a mis 14-15, vous voyez, vous aviez des sondages qui mettaient Le Pen à 14-15 et Jospin à 16-17. Donc les gens se sont dit, donc il y en a un qui est devant l'autre. Mais comme c'est plus ou moins 3, tout le monde comprend bien que ça pouvait tout à fait s'inverser. C'est ce qui s'est passé. Et pour que ça ne se reproduise plus, moi je dis qu'il est essentiel de donner les marges d'erreur, tout simplement. Et de bien comprendre que... Alors les journaux sont paniqués. Parce que vous comprenez, si vous faites un titre, vous venez le Parisien, vous mettez 24-23 ou 24-22, bon, tout le monde comprend. Vous mettez 49-51, tout le monde comprend. Simplement, la vérité, c'est pas ça. C'est 49 plus ou moins 3 ou 51 plus ou moins 3. Donc nous demandons qu'on dise la vérité. Et voyez-vous, on a bien fait de faire ce rapport et de faire cette proposition de loi. Parce que Jérôme Sainte-Marie, qui représentait donc l'Institut CSA ici, à ce débat de libération à Rennes, il l'a admis puisqu'il a dit maintenant, finalement, les marges d'erreur, c'est presque admis qu'on va les mettre. Eh bien, je dis que ce sera un progrès, parce que vous entendrez sur la radio RTL ou Europe 1 ou France Inter, voilà, ce sondage, la marge d'erreur est de plus ou moins 3. Bon, c'est pas très long en radio, ça prend une seconde, deux secondes. Mais ça mettra dans l'esprit public que tout cela est relatif. Et c'est mieux de dire que c'est relatif parce que c'est relatif. C'est pas une donnée absolue, si vous voulez, c'est pas la science mathématique exacte. Il y a des marges d'erreur, il y a des biais. Et de la même manière, par exemple, vous voyez, il y a le débat sur le financement, parce qu'on demande aussi, on n'a pas eu le temps de le dire dans le débat là, mais je vous le dis, que l'on donne aussi les taux de non-réponse. Vous savez que pour des sondages téléphoniques aujourd'hui, il faut pratiquement passer 10 coups de fil pour trouver une personne qui répond. Et la grande question est de savoir si les personnes qui répondent sont représentatives de la population, hein, puisque finalement, il y a 10% de gens qui acceptent de répondre au téléphone. Donc, vous voyez, l'instrument est très relatif. Et j'ai écrit dans l'article qui paraît aujourd'hui dans Libération cette phrase « Le culte de l'opinion est un poison pour la démocratie » parce que pour moi, voyez-vous, on a des questions qui se posent. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport au chômage des jeunes? Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport au nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait par rapport, à l'éducation, ou pour lutter contre l'échec scolaire, ou on peut prendre toutes les questions politiques, ou pour la sécurité. C'est intéressant de savoir ce que pense l'opinion, d'avoir des statistiques et des pourcentages. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le débat politique, et c'est surtout les propositions que je vais faire. Et finalement, aucun sondage ne va me dire quelles sont les mesures qu'il faut prendre, par exemple, si on veut sortir du nucléaire, à quel délai. C'est l'acte politique qui va faire que moi, politique, je vais proposer soit de cohabiter avec le nucléaire pendant X temps, soit de sortir plus vite, mais ça aura tel coût, il faudra en tirer telle conséquence par rapport aux énergies renouvelables, etc. etc. C'est moi qui vais dire, on crée 300 000 emplois jeunes, je ne sais pas si l'opinion est pour ou contre, si on décide dans le bon, ça a des inconvénients parce que ça coûte un certain prix, mais c'est l'avantage qu'on a 300 000 jeunes qui ne butent pas devant le pôle emploi qui ferme les portes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, la politique, et j'ai cité ce cas de la peine de mort à la fin du débat, où François Mitterrand a dit, je suis candidat, je sais que les sondages montrent que les Français sont en majorité pour la peine de mort, moi je suis pour l'abolition de la peine de mort, ça ne l'a pas empêché d'être élu quelques jours plus tard. Donc, et on pourrait dire aussi, vous savez, si on avait fait des sondages pendant la guerre, qu'est-ce qui aurait soutenu De Gaulle? Bon, aujourd'hui, tout le monde dit De Gaulle, c'est lui qui a rendu l'honneur à la France. Donc, les sondages, il ne faut pas les mépriser, c'est un élément. Et c'est un élément d'appréciation. Mais j'ai froid dans le dos quand j'apprends que tel candidat à la présidentielle a fait tester par sondage toutes les phrases qu'il allait prononcer. Parce que dans ce cas-là, ça a l'air de dire qu'on est presque esclave d'une idée de l'opinion. On va prendre la température de l'opinion comme avec un thermomètre, dire « Ah bah tiens, il pense ça, bah alors je vais dire ça. Ah bah tiens, il pense ça, alors je vais dire ça. » Vous vous rendez compte? Petit à petit, on va dévoyer finalement ce qui est l'essence du débat public et le sens de la politique.